un podcast France Culture.
Hier, le 1er janvier, est entré en vigueur aux États-Unis l'Inflation Reduction Act, un projet cher au président Biden qui vise moins à lutter contre l'inflation qu'à protéger l'industrie américaine de la concurrence étrangère, et cela en dépit des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Ce paquet de mesures a relancé le débat sur le protectionnisme, une notion à laquelle nous consacrons notre série toute cette semaine. Aujourd'hui, comment les économistes ont-ils pensé le concept de protectionnisme ? Pour ce premier épisode de notre série sur les batailles du protectionnisme, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Sapir, économiste, directeur d'études à l'EHESS et directeur du Centre d'études des modes d'industrialisation, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels un Que sais-je sur le protectionnisme aux presses universitaires de France. Également avec nous en studio, et je m'en réjouis, Guylain Deleplace, économiste, professeur émérite à l'université Paris 8 Saint-Denis, auteur d'une histoire de la pensée économique du royaume agricole de Kéné au monde à la Haro, de Breu aux éditions d'Uno, également d'un ouvrage sur David Ricardo, une émission préparée par Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade, Léa Sabourin, Diane Devancet, Laurence Genepin et Margot Bolotny. Jacques Sapir et Guylain Deleplace, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, comment définir le protectionnisme ? Est-ce qu'il faut nécessairement le définir par opposition au libre-échange, Guylain Deleplace ?
Alors, il me semble que, d'une façon générale, le protectionnisme est un ensemble de dispositifs pratiques qui opèrent une discrimination en faveur des biens, des capitaux ou des travailleurs du pays, au détriment donc des biens, des capitaux ou des travailleurs étrangers, dans le but de protéger. Au sens étroit, le plus souvent, on associe le protectionnisme à la restriction des importations de biens. Donc ça réduit sur les biens et sur la question des importations. Mais je crois qu'il faut garder cette perspective qui est beaucoup plus large puisqu'elle déborde du strict champ des biens. Alors, est-ce qu'il faut définir cela par rapport au libre-échange ? Je crois pas. Je crois pas. C'est vrai que pour l'excitation du débat, ce serait mieux de le faire. Jacques Sapir est un ardent défenseur du protectionnisme. Je suis pas un défenseur du libre-échange, même si j'ai beaucoup travaillé sur Ricardo. Tout simplement parce que, en tant qu'historien de la pensée économique, je crois que la question se pose différemment. Bien sûr, au XIXe siècle, s'est développée une doctrine libre-échangiste, principalement en Grande-Bretagne, qui dominait à l'époque les idées économiques. Et c'est cette doctrine qu'on trouve encore dans les manuels. Et le lien avec Ricardo, c'est le fameux modèle de spécialisation internationale, le Portugal qui produit du vin et l'Angleterre qui produit du drap.
On va y revenir.
Mais si on regarde la pensée économique plus largement sur 3 ou 4 siècles, et pas seulement le 19e, on constate que il s'agit non pas d'une opposition de doctrine, mais en gros d'une question pratique. Et cela pour deux raisons. La première raison, c'est que le protectionnisme est antérieur au libre-échange. Il procède donc pas d'un rejet du libre-échange, puisqu'il a existé avant, alors qu'aujourd'hui, c'est souvent par opposition au libre-échange que on les détermine. Et enfin, dans les deux cas, il s'agit de favoriser l'activité économique nationale. Ce sont des moyens différents pour la favoriser, mais il faut voir ça, je crois, comme une question pratique, pas comme une question doctrinale, toujours, en tout cas chez les économistes, subordonnée à un enjeu plus large, qui est celui du fonctionnement de l'économie dans son ensemble. Alors bien sûr, c'est vu différemment selon les époques ou les auteurs, mais il y a toujours cette surdétermination de la question du choix entre libre-échange et protectionnisme par une autre question théorique plus fondamentale.
Le protectionnisme est antérieur au libre-échange, nous dites-vous, Guylain Deleplace. En effet, avant la fin du XVIIIe siècle, on peut dire que le protectionnisme dominait le monde, Jacques Sapir, et on parlait alors de mercantilisme.
Oui, tout à fait. Et on voit bien que, en fait, la première raison d'être du protectionnisme, elle est essentiellement fiscale. À une époque où les différents États, les différents royaumes, n'ont pas une fiscalité très assise. Alors, c'est évident dans le cas de la France, mais même chose pour la Grande-Bretagne. On va faire du protectionnisme pour gagner de l'argent. Alors, on va le faire d'abord avec les pays qui sont vos propres colonies. Et on sait que c'est ce qui va provoquer justement l'insurrection américaine de 1776. Mais on le fait aussi sur toute une série d'autres pays. Et la première idée, c'est essentiellement de rapporter de l'argent pour les États. Après, ce qui est intéressant, c'est que à la suite du blocus continental de Napoléon, on voit se développer une autre compréhension du protectionnisme qui regarde beaucoup plus la protection des activités naissantes ou de ce qu'on appellerait dans le langage plus contemporain des industries naissantes. Alors, ça commence dès 1819 avec le livre de Chaptal sur l'industrie française. Et puis, alors, Auguste Thiers, par exemple, devient un fervent protectionniste. Et on va retrouver progressivement les grands noms de ce courant de pensée. D'abord, Friedrich List, qui connaît Chaptal, qui rencontre Chaptal à Paris, parce qu'il est expulsé des États allemands à cause de ses idées politiques libérales. Et il faut toujours savoir que les protectionnistes de cette époque-là sont ce qu'on appelle politiquement des libéraux. Il part aux États-Unis, financé en partie par le marquis de Lafayette. Et là, il va, d'une certaine manière, commencer à travailler sur ces questions-là. Il rencontre Charles Ingersoll, qui est un des grands industriels américains. Et il va commencer à écrire sur le protectionnisme.
On va venir au protectionnisme du 19e siècle et voir l'évolution de ce concept au fil des siècles, justement. Mais restons un petit peu encore au siècle précédent, la Révolution française. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Guilain Delaplace, dans quel contexte à la fois politique et économique, ce qu'on appelle donc le mercantilisme, apparaît au 16e siècle ?
Alors, je crois qu'il faut peut-être traverser la Manche, puisque le libre-échange se développera en Grande-Bretagne au 19e. Il faut regarder quel est le mercantilisme anglais. Et la justification du protectionnisme telle qu'on la trouve dans le mercantilisme anglais est tout à fait différente. Ce n'est pas du tout une question fiscale qui est en cause. C'est la question, c'est un peu l'illustration de ce que je disais tout à l'heure, d'un problème plus général, comment une nation s'enrichit-elle ? Et la réponse des Anglais est très claire, et il y a un ouvrage de Thomas Mann en 1628 qui le dit très bien, le trésor de l'Angleterre par le commerce extérieur. L'Angleterre n'a pas de mine d'or et d'argent. Elle ne peut accroître sa richesse monétaire que si l'or et l'argent lui viennent de l'extérieur. Et comment peuvent-ils entrer? Sinon par une balance commerciale excédentaire. Et donc, la question centrale du mercantilisme anglais va être celle-là. Comment faire pour maximiser l'excédent du commerce extérieur? Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut comprendre le protectionnisme, et d'une manière qui peut apparaître parfois contre-intuitive. Parce que la première réaction serait de se dire, on va contingenter les importations, et comme ça, l'excédent extérieur sera d'autant plus important. Oui, c'est vrai, surtout pour les biens de luxe, à condition qu'il ne s'agisse pas de biens qui soient susceptibles d'être réexportés. Par exemple, le poivre. On va importer le poivre du Moyen-Orient, mais si ce poivre est destiné à une réexportation vers le continent, les importations sont gages d'exportation en plus grande valeur future. Et alors, a fortiori, s'il s'agit d'importer des matières premières qui vont être transformés en produits manufacturés susceptibles d'être exportés. Donc, il faut bien voir qu'il n'y a pas cette vision doctrinaire qui est restreindre les importations. Au contraire, favoriser les importations si c'est pour augmenter les exportations et par là, augmenter l'excédent de la balance commerciale. Alors, je crois qu'il faut bien garder ça en tête parce que c'est cette vision de l'enrichissement national qui va être remise en cause à la fin du XVIIIe siècle, principalement par Adam Smith, qui est un grand auteur anti-mercantiliste. Et c'est avec la remise en cause de cette recherche de l'excédent commercial extérieur que va naître la marche vers le libre-échange.
Et au XVIIe siècle, il y a cet impératif qui est effectivement de remplir les caisses du royaume.
Soie de Chine brodée d'or. C'est là sans doute, sire, ce que j'ai réussi de mieux.
Monsieur Cornillac, la forme et le tissu nous plaisent. Mais il manque encore d'éclat. Ne serait-il pas à propos de rajouter à ce costume quelques-unes de nos précieuses pierres des Indes ?
Sire, je n'avais pas osé.
Alors, monsieur, nous vous invitons à oser. Notre Versailles ne peut être que plaisir des yeux, et chatoiement des couleurs.
Bon, de nouveau, mot de nouvelles.
Je crains, lorsque mon or se sera transformé en broderie, de me sentir bête comme la tortue qui porte sa maison sur son dos.
Voilà bien parti pour de multiples dépenses, et je crois que Sa Majesté va s'en amuser.
Des dépenses qui, tout en nous ruinant, ne nous feront plus dépendre que du bon plaisir du roi.
Allons.
Voilà, extrait de Versailles, le rêve d'un roi, un téléfilm de Thierry Binisty diffusé sur France 2. Alors justement, on a bien compris qu'il s'agissait pour Louis XIV et pour d'autres souverains de l'époque de à la fois restreindre autant que possible les importations, éventuellement en les taxant, et puis de favoriser autant que possible les exportations en les subventionnant par exemple. Protectionnisme, ce sont donc, on le voit bien, des restrictions mais aussi des encouragements au commerce, Jacques Sapir.
Oui, tout à fait. Et alors, il y a une autre méthode qui est utilisée, c'est qu'on va aller chercher dans des pays étrangers des technologies qui n'existent pas en France et on va les développer quand elles reviendront en France. Le plus bel exemple, ce sont les miroirs. Si vous voulez, le miroir, c'est d'abord quelque chose qui est fabriqué à Venise. Et Louis XIV fait venir des artisans vénitiens. Et il va développer la trempe des miroirs de grande taille, et on en a un très bel exemple d'ailleurs avec la Galerie des Glaces, hein, si vous voulez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, il a pris un avantage technique à un moment donné qui était à Venise, il l'a ramené en France, il l'a développé, et de là, effectivement, eh bien, on va acheter dans toute l'Europe des miroirs français. Donc, il y a, c'est pas simplement des mesures de type taxation, etc. Il y a aussi cette dimension de mesures qui visent à accroître les compétences à un moment donné.
Vous avez parlé de mercantilisme anglais, Guylain de Leplace. Je nous ai ramené en France. Sans doute, faut-il distinguer ces deux types de mercantilisme, l'un français, l'autre anglais?
Oui. Parce que, encore une fois, la vision de l'enrichissement national est complètement différente des deux côtés de la Manche. La France est un pays peuplé, un pays agricole, qui cherche, comme ça a bien été dit, à développer les manufactures, mais pour l'essentiel, l'objectif est un pays agricole. Et d'ailleurs, l'embryon de pensée économique qui va se manifester dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en France, qu'on appelle la physiocratie, souligne bien que l'enrichissement d'un royaume, c'est d'abord d'origine agricole. En Grande-Bretagne, c'est tout à fait différent, puisque comme je l'ai dit, la vision, c'est une vision d'enrichissement monétaire, et par réel, comme diraient les économistes aujourd'hui, et un enrichissement monétaire par un excédent de la balance commerciale. Alors, on peut sourire éventuellement de cette idée qu'il faille en quelque sorte accumuler un trésor, hein, le titre de l'ouvrage de Munch que j'ai cité tout à l'heure. C'est plus profond que ça. C'est une idée qui sera progressivement abandonnée au XIXe siècle, mais qui ressurgira au XXe, à savoir l'idée que la prospérité d'une nation suppose une circulation monétaire abondante. Faire entrer de l'or et de l'argent, c'est pas pour le mettre dans des coffres, c'est pas pour le thésauriser, c'est au contraire pour le faire circuler sous forme de monnaie, parce que la circulation monétaire abondante est la condition de la prospérité du commerce, de l'activité agricole aussi. Les fermiers peuvent pas vendre leurs biens s'ils ne sont pas achetés avec de la monnaie par les villes, et également de la prospérité des manufactures. Donc, c'est une vision qui est une vision monétaire, mais une vision qui, encore une fois, s'articule avec la conception générale de la richesse de la nation. Et c'est ça qui va être mis en cause dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et principalement pour deux raisons. Je me situe encore en Grande-Bretagne. Encore une fois, c'est pas un tropisme britannique.
C'est là que tout se passe à l'époque.
Voilà, c'est là que les choses se passent dans la pensée économique. J'ai cité les physiocrates. Hein, c'est très important, les physiocrates. Mais bon, c'est quand même très particulier. Ça aura moins d'avenir que la pensée d'Adam Smith. Pourquoi c'est remis en cause dans la seconde moitié du XVIIIe en Angleterre? Pour deux raisons. Une raison pratique. C'est le développement du système bancaire. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on n'a pas besoin nécessairement d'or et d'argent pour que l'activité économique soit prospère. On peut remplacer les espèces d'or et d'argent par les billets de la Banque d'Angleterre ou des country banks, les banques provinciales, par les chèques, les virements gérés par les banques londoniennes. Et donc, on n'a plus besoin de faire rentrer de l'or et de l'argent. Et la seconde raison est une raison théorique. C'est que, en gros, l'idée qu'on puisse accroître l'excédent commercial et conserver un excédent commercial durable est une idée fausse.
Alors ça, c'est un point extrêmement intéressant et sur lequel il faut s'arrêter un petit peu parce que c'est tout de même assez complexe. On va entendre une lecture de David Hume sur ce point. Je rappelle pour nos auditeurs qui arriveraient en cours de route que nous sommes en train de parler du protectionnisme dans la pensée économique en compagnie des économistes Guilain de Laplace et Jacques Sapir. Et alors effectivement, avant d'en venir à ce texte de David Hume, peut-être qu'il faut expliquer, Jacques Sapir, qu'au XVIIIe siècle, si le consensus autour du protectionnisme se fissure, c'est parce que on se rend compte que l'une des limites du mercantilisme, c'est que l'augmentation de la quantité de monnaie crée de l'inflation.
Alors, c'est une idée qui se développe en fait très tôt. Vous avez effectivement David Hume, bon, mais en fait, il y a un auteur qui en parle avant lui, c'est Cantillon. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que Cantillon, il invente en même temps la notion de processus. Parce que quand il explique, ben oui, voilà, un navire arrive chargé d'or des Indes, de l'Amérique latine, immédiatement le prix des produits augmente. Ça, c'est ce que dit Hume. Quand ils ont dit non, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, on va avoir, il y a d'abord les biens de consommation qui vont voir leur prix augmenter, puis comme il va falloir produire plus de biens de consommation, il y aura les biens de production. Et de proche en proche, il n'y a pas nécessairement cette augmentation des prix, je dirais mathématique, qui consiste à dire, bon, il y a tant d'or en plus dans le pays, il doit y avoir tant de hausse des prix dans le pays. Donc, déjà là, on voit que, alors qu'ils sont fondamentalement d'accord, il y a deux approches qui sont extrêmement différentes. Et puis, il y a une autre chose, c'est l'émergence de la notion de souveraineté alimentaire. Alors, j'utilise un terme qui est volontairement un terme de la période actuelle, mais pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, met-il des droits sur l'importation du blé ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il veut développer une quantité suffisante de production de blé pour pouvoir, au cas où
il y aurait un blocus.
Oui, il y a un blocus. Au cas où la flotte anglaise subirait des défaites importantes, que la Grande-Bretagne ne soit pas affamée.
Donc c'est une question stratégique avant d'être économique.
Il y a aussi, je ne dis pas seulement, mais je dis qu'il y a aussi, et c'est là où on le voit, l'émergence d'une notion stratégique qui sera reprise alors, je vous dis, par Friedrich List et qui sera reprise par l'Américain Henri Carré.
Eh bien, écoutons David Hume, donc le philosophe écossais, qui est l'un des premiers à pointer les limites du mercantilisme. Écoutez cet extrait de l'essai sur la balance du commerce paru en 1752. Supposer que les 4/5 de toute la monnaie en Grande-Bretagne soient réduits à néant en une nuit et que la nation soit ramenée à la même condition, en ce qui concerne les espèces, que sous le règne des Henry et des Edwards. Quelle en serait la conséquence ? Le prix de tout travail et de toutes les marchandises ne devrait-il pas chuter dans la même proportion et toutes choses se vendre aussi bon marché qu'à ces époques ? Quelle nation pourrait alors lutter avec nous sur n'importe quel marché étranger ou prétendre transporter par mer ou vendre des produits manufacturés au même prix que celui qui nous assurerait un profit suffisant? Par conséquent, combien peu de temps faudrait-il pour faire revenir la monnaie que nous avions perdue et nous élever au niveau de toutes les nations voisines? Arrivés là, nous perdrions immédiatement l'avantage du bas prix du travail et des marchandises, et la poursuite de l'entrée de monnaie serait stoppée par notre abondance et notre satiété. Or, il est évident que les mêmes causes qui corrigeraient ces inégalités exorbitantes, si elles arrivaient par miracle, doivent empêcher leur apparition dans le cours ordinaire de la nature, et doivent, pour toujours, dans toutes les nations voisines, proportionner à peu près la monnaie à l'activité de chaque nation. Tout eau, où qu'elle aille, demeure toujours au même niveau. Guy Vilain de Leplace, ce que montre ici David Hume, c'est donc l'impossibilité à long terme de la poursuite d'un excédent commercial.
Voilà. Pour Hume, cela n'a pas de sens de rechercher un excédent commercial, comme le pensaient les mercantilistes, parce que il finit par se corriger de lui-même. Il y a une tendance à l'équilibre de la balance commerciale et le mécanisme qu'il décrit et que vous venez de résumer dans cet extrait sera à la base de toute l'orthodoxie monétaire du 19e et du 20e siècle et encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle en littérature le mécanisme flux d'espèces prix. Bon, très simplement, ça a été évoqué tout à l'heure par Jacques Sapir, le cœur de cette analyse, c'est la théorie quantitative de la monnaie. Si la quantité de monnaie dans un pays augmente, les prix augmentent, si la quantité de monnaie diminue, les prix diminuent. Or, l'entrée d'or et d'argent, qui était l'objectif explicite des mercantilistes, fera monter les prix des produits anglais qui deviendront ainsi moins compétitifs vis-à-vis des produits étrangers. Les importations augmenteront, les exportations diminueront et donc l'excédent de la balance commerciale disparaîtra. Alors, on peut être en accord ou en désaccord avec le mécanisme tel qu'il est décrit par Hume. On peut préférer, il y aura d'autres auteurs, insister sur le fait que l'ajustement se fera par les taux de change ou par les taux d'intérêt, plus que par des effets prix. Il n'empêche, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, plus aucun économiste sérieux ne défendrait la thèse selon laquelle il est possible et souhaitable d'avoir un excédent commercial durable, dès l'instant où les monnaies s'échangent librement sur les marchés d'échange. Alors on dira, regardez l'Allemagne, regardez la Chine. Oui, vous savez probablement que l'Allemagne appartient à une union monétaire. Sa monnaie n'existe plus, elle n'est plus cotée sur le marché d'échange, c'est l'euro qui est coté. Donc ce qui est important, c'est non pas la position de l'excédent commercial allemand, mais c'est la position de l'excédent commercial de la zone euro dans son ensemble. Quant à la Chine, il va de soi qu'elle peut avoir un excédent commercial durable parce que sa monnaie n'est pas cotée librement sur les marchés d'échange. Donc, peu importe finalement qu'on adhère ou non, d'un point de vue théorique, à ce mécanisme décrit par Hume, ce qui est important, ce qui change tout, c'est que le paradigme, en quelque sorte, hein, l'enrichissement d'une nation ne peut plus reposer sur un excédent extérieur, tout simplement parce qu'un excédent extérieur durable n'est pas possible. Il faut chercher les choses ailleurs, et alors ailleurs, Jacques Sapir nous a mis sur la piste, ça va être précisément quelles sont les conditions dans lesquelles le prix d'une marchandise tout à fait centrale dans la vie d'un pays, le blé, c'est-à-dire le principal bien qui permet l'alimentation et la subsistance des individus. Dans quelle mesure le prix du blé peut-il être affecté par le commerce extérieur et quelles conséquences ça va avoir sur l'enrichissement de la nation?
Alors on va venir au blé, mais n'allons pas trop vite en besogne. Encore un mot sur David Hume. Jacques Sapir, on peut dire qu'il est donc le premier à décrire ce mécanisme d'ajustement des stocks d'or lorsque la règle, c'est l'étalon or.
Il n'est pas le premier, mais il est le plus connu. Oui, Cantillon l'a décrit avant lui, 30 ans ou 40 ans avant lui. Bon, par contre, ce qui est vrai, c'est que David Hume, qui est d'ailleurs un penseur tout à fait considérable, le classer comme économiste ne lui rend pas service. C'est aussi un philosophe, c'est aussi un sociologue. Bon, il va donner une explication qui est extrêmement simple. Et comme elle est très simple, elle a une capacité à convaincre son public qui est évidemment extrêmement rapide. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que il y aura des gens qui diront « Bon, d'accord, oui, on est convaincu, effectivement, un pays ne peut pas avoir un gain de balance commerciale permanent, mais il faut néanmoins faire du protectionnisme parce que on est confronté à des choses qui sont tout à fait vitales pour un pays. Et il faut savoir que la Grande-Bretagne vit dans la hantise d'être coupée du monde extérieur pratiquement sur 250 ans. Si vous voulez, les sous-marins allemands de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale n'ont rien inventé. Alors évidemment, c'était pas des sous-marins, mais c'était les corsaires français, les pirates espagnols qui s'attaquaient au commerce. Et à un moment donné, les autorités se sont dit « mais il faut que l'on garantissent d'une certaine manière la base minimale de fonctionnement de notre économie.
Vous dites que David Hume est très convaincant et en effet, hein, son idée qu'on pourrait aujourd'hui appeler théorie quantitative de la monnaie, elle va être reprise par Adam Smith et aussi par Ricardo et bien plus tard par Milton Friedman, Jacques Sapir.
Oui, et par Stanley Fisher, effectivement, qui va en donner la forme, je dirais, la plus pure. C'est cette idée et le problème, c'est qu'on voit toujours que cette idée repose sur toute une série de simplifications. Alors, ce sont des simplifications théoriques qui sont tout à fait légitimes, mais qui, quand on veut passer d'un modèle théorique à un modèle appliqué, là, soulève d'énormes problèmes. Par exemple, ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors évidemment pas en des termes qui sont mathématisés à l'époque, il faudra attendre Ricardo effectivement, mais surtout
la fin du
19e siècle pour qu'apparaisse une économie qui est plus formalisée. Mais il y a toute une série d'économistes qui disent « Ah mais oui, mais dans ce raisonnement, on présuppose la stabilité de telle ou telle variable, et si ces variables ne sont pas stables ?» Et si ces variables ne sont pas stables, qu'est-ce qui se passe? Bon, donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, c'est la question des gains de productivité. Parce qu'on voit bien que plus à un moment donné, le producteur gagne de l'argent, alors on peut dire, bon, il ne pourra pas en gagner pendant 107 ans parce qu'il va justement y avoir ce type de problème. Mais plus il gagne cet argent, plus il peut mettre sur pied des méthodes de gains de productivité qui vont faire que, avec la même quantité de travail, il va produire 2, 3, 4 fois plus de produits et qui va, d'une certaine manière, ramener la situation à son point initial.
On a vu ces critiques autour du mercantilisme qui apparaissent à partir de la moitié du milieu du XVIIIe siècle. On peut dire, Guylain de Leplace, que c'est à travers sa critique que le terme même de mercantilisme apparaît ?
Oui, on peut dire ça.
Parce qu'il est utilisé par Adam Smith pour la première fois.
Oui, il est utilisé le quatrième livre de l'enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, qui est l'opus magnum d'Adam Smith,
1776.
Est une attaque résolue contre le mercantilisme. Adam Smith n'a pas une position aussi caricaturiste, peut-être que on a tendance à le dire. Il considère qu'il y a des domaines dans lesquels la protection est justifiée, par exemple s'agissant du blé, par exemple tout ce qui a trait à la sécurité de la nation. Donc retrouver une question qui était évoquée à l'instant, l'aspect stratégique, mais c'est vrai que Adam Smith, en quelque sorte, donne une unité à la pensée mercantiliste pour mieux l'attaquer. En réalité, la pensée mercantiliste est très diverse, selon les pays, à l'intérieur même des pays. J'ai parlé du mercantilisme anglais que j'ai simplifié au maximum, mais bon, il y a des oppositions qui sont très très fortes. Donc, en réalité, il y avait des penseurs mercantilistes, il n'y avait pas un mercantilisme, mais Adam Smith, pour les besoins de sa démonstration, les regroupe tous de manière à construire en quelque sorte une doctrine et mettre en face, sinon une doctrine, en tout cas au moins sa propre théorie.
Et il y a également un économiste suédois, Eli Ekscher, je prononce très mal son nom, Ekscher, je crois,
oui.
Jacques Sapir, qui lui va vraiment, avec un ouvrage très important au XXe siècle, formaliser la théorie des mercantilistes.
Tout à fait, tout à fait. Et là, on reprend, si vous voulez, alors Ekscher, oui, Olin, qui est quelqu'un qui va le suivre, et puis après, soit Van Eck, soit Samuelson, bon, ce qu'on appelle le modèle HOS ou le modèle HOV, hein. Bon, mais là, on voit bien que, d'une certaine manière, il y a une forme de réduction de cette pensée, parce que ce que font ces gens, ce n'est jamais que de reproduire, la pensée de Ricardo. Et là, il n'y a pas réellement de basculement majeur, si ce n'est effectivement qu'il se pose la question de savoir est-ce que le capital peut circuler. Ils ont tendance à penser que non. Est-ce que le travail peut circuler? Ils pensent que non. Et on voit bien que là, ils ne regardent pas ce qui se passe dans les économies de leur époque, parce que déjà de 1900 à 1930, il y a des mouvements d'émigration et d'immigration qui sont tout à fait importants. Bon, mais c'est vrai qu'ils vont donner la pour le coup, une forme très moderne, et c'est la forme que l'on, plus ou moins, que l'on apprend à nos étudiants en deuxième ou en troisième année.
Jacques Sapir, Guylain Delaplace, vous restez avec nous, on va continuer à parler de protectionnisme, mais d'abord place à la chanteuse américaine Donna Summer, Protection, sur France Culture. Donna Summer sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho, protectionnisme versus libre-échange, un duel théorique, c'est notre sujet aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie des économistes Jacques Sapir et Guylain Delaplace dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et Félicie Faugère et mise en onde par Noé Chaban. Alors, on l'a dit, hein, si le protectionnisme a longtemps été dominant, à la fin du XVIIIe siècle émerge l'idée qu'il faut laisser libre cours au marché, et cela grâce aux écrits d'Adam Smith. Ce qu'il va montrer, Guylain Delaplace, c'est que le commerce extérieur n'est finalement qu'une simple composante du marché.
Oui, alors c'est réduire beaucoup la pensée de Smith, hein, qui est très large. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus cette rupture qui pouvait exister chez les mercantilistes entre le commerce intérieur et le commerce extérieur. Les deux étaient liés néanmoins, hein, chez les mercantilistes, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque en gros, le succès du commerce extérieur permettait d'alimenter en monnaie le commerce intérieur, était une condition de son développement. Mais chez Smith, il y a cette idée que la richesse d'une nation vient de s'identifie plus précisément à la quantité de biens qui est produite, quantité de valeur d'usage qui satisfont les besoins, et elle est d'autant plus importante que le travail est divisé, dit-il, hein, la fameuse fabrique d'épingles. Où on produit davantage d'épingles si on divise le travail entre 10 ouvriers plutôt que si c'est un seul ouvrier qui fait les 10 opérations. Or, qu'est-ce qui peut conduire à cette division du travail ? C'est l'étendue du marché.
Il faut étendre le marché.
Voilà. Donc, il y a une espèce de vision historique qui est, ben voilà, on part de l'échange local, en gros entre la campagne et la ville, et puis ensuite cet échange s'étend entre les villes à l'intérieur d'une nation, et puis ensuite ça s'étend entre les nations elles-mêmes. Mais donc il y a une espèce de progression, mais avec cette idée commune qui est que l'important est l'étendue du marché. Alors, c'est une manière de justifier le libre-échange. Ce sera pas la seule manière, je pense qu'on en parlera après, précisément à propos des débats sur le blé, mais c'est une manière, et c'est la manière dont, en général, le libre-échange est présenté. et critiqué. Si je peux me permettre quand même, parce que bon, ayant passé beaucoup de temps avec Ricardo, il y a des choses que j'ai du mal à laisser dire. Bon, le modèle d'Ecksher-Olin Samuelson, qui est le modèle canonique dans tous les manuels, qui détermine la spécialisation internationale, est en général attribué à Ricardo. Il y a une différence fondamentale. Dans ce modèle d'Ecksher-Olin Samuelson, ce qui est important, ce sont les dotations en facteurs. Oui. Vous avez deux pays. Bon, un pays où il y a beaucoup de travail, un pays où il y a beaucoup de capital. Eh bien, la conclusion de ce modèle, c'est il faut que le premier se spécialise dans la production de biens qui réclament beaucoup de travail, le deuxième dans la production de biens qui réclament beaucoup de capital, tout simplement parce que là où le travail est abondant, le salaire est faible, et donc le coût de production sera plus faible, et là où le capital est abondant, le taux d'intérêt est faible, et donc le coût de production sera également plus faible. Bon, vous trouvez pas du tout ça chez Ricardo, cette notion de facteur de production lui est complètement étrangère. Ce qui est important chez Ricardo, ce sont les différences de productivité du travail. Et effectivement, si le travail est plus productif en Angleterre dans la production du drap qu'il ne l'est au Portugal dans la production du vin, il faut qu'il y ait une spécialisation. Je pense pas d'ailleurs que les consommateurs anglais se soient beaucoup plaints que la production de vin en Angleterre ait été abandonnée. Il vaut mieux produire de la bière, mais bon, le vin anglais...
Avec le réchauffement climatique, je ne sais pas.
Donc, c'est un peu un travestissement de la pensée de Ricardo que de réduire ça, mais c'est pas le plus important. Le plus important chez Ricardo, je pense qu'on va le voir maintenant, c'est précisément la place qu'occupe le commerce extérieur d'un bien particulier, le blé, dans la dynamique de l'accumulation du capital, c'est-à-dire la dynamique de la richesse d'un pays. Et ça, c'est beaucoup plus sérieux que les petits modèles de biens, de pays, etc.
Eh bien, justement, écoutons ce qu'écrit David Ricardo dans son essai sur l'influence du bas prix du blé sur les profits du capital, et c'est publié en 1815. En traitant le sujet des profits du capital, il est nécessaire de considérer les principes qui gouvernent la hausse et la baisse de la rente foncière. La considération de ces principes, ainsi que de ceux qui gouvernent le profit du capital, m'a convaincu de l'opportunité de ne pas restreindre par la loi l'importation de blé. Constatant le principe général adopté dans toutes les publications de M. Malthus, je suis convaincu qu'il défend la même opinion tant que seul le profit et la richesse sont concernés par cette question. Mais voyons comme il le fait un formidable danger dans la dépendance vis-à-vis de l'offre étrangère pour une grande part de notre nourriture, il considère au total qu'il est sage d'en restreindre l'importation. Ne partageant pas ses craintes et peut-être attribuant une plus grande importance aux avantages d'un bas prix du blé, je suis arrivée à une conclusion différente. Je terminerai en disant quels seraient mes regrets si l'on accordait à des considérations particulières, pour telle ou telle classe, le droit d'arrêter le développement de notre richesse et de notre population. Si les intérêts des propriétaires ont assez d'importance pour nous déterminer à rejeter tous les bénéfices qui découlent de l'importation des céréales à bas prix, ils doivent aussi nous conduire à proscrire tous les perfectionnements qu'on pourrait appliquer à l'agriculture. Car il est clair que pendant un certain temps, ces améliorations contribueront aussi puissamment que l'introduction des céréales à abaisser le taux des rentes et le prix du blé et à diminuer les ressources avec lesquelles le propriétaire doit acquitter les impôts. Pour être conséquent, alors, il nous faut prohiber d'une main les importations et proscrire de l'autre tout progrès. Guylain de Leplace, vous qui êtes un spécialiste de David Ricardo, expliquez-nous, si vous le voulez bien, pourquoi celui-ci dénonce les lois protectionnistes sur le blé, donc les fameuses corn laws qui sont validées, en tout cas mises en œuvre à partir du début du 19e siècle.
Oui, alors il ne faut pas se tromper, la dernière phrase de l'extrait que vous avez lu est ironique. C'est-à-dire que ce que dit Ricardo, c'est ceux qui soutiennent qu'il faut empêcher les importations de blé étranger devraient également soutenir que on doit proscrire tout progrès technique dans l'agriculture, puisque dans les deux cas, importer du blé étranger ou appliquer un projet technique d'agriculture, ça fera baisser le prix du blé. Or, ceux qui attaquent les importations de blé veulent précisément maintenir le prix du blé à un niveau élevé. Donc, c'est ironique. C'est une façon de mettre ses opposants dans une petite boîte.
Parce que personne ne peut être contre le progrès.
Voilà, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Bon, alors, les lois sur le blé. Il y a toujours eu des lois sur le blé en Angleterre depuis la fin du XVIIe siècle. Et elles avaient été imaginées pour résoudre un problème lorsque on avait une récolte abondante et qui faisait chuter le prix du blé. Bon. Et donc, dans ce cas-là, il fallait réduire les importations pour éviter la concurrence avec l'étranger et favoriser les exportations. Le contexte du début du XIXe siècle est tout à fait différent. Depuis l'essai sur la population de Malthus en 1798, on comprend qu'à long terme, la question principale, c'est de faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre la croissance de la population et la croissance de la quantité du principal bien de subsistance de la population, c'est-à-dire le blé. Donc on est dans une perspective qui est de croissance à long terme. Et puis, évidemment, en 1815, il y a l'expérience récente des guerres napoléoniennes, du blocus continental, qui s'est traduit par une cessation, de fait, des importations de blé et un prix élevé. Alors, la question qui se pose en 1815, et c'est très intéressant parce qu'on voit là un enjeu politique, on voit l'intervention des économistes, on voit différents niveaux d'argumentation. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait en 1815? Bon, après Waterloo, en fait, le débat commence un peu avant la défaite de Napoléon, mais bon, vous savez, Napoléon a perdu en deux temps, donc on commence à réfléchir avant même qu'il revienne de l'île d'Elbe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait en sorte que le prix du blé reste à un niveau élevé? Évidemment, les propriétaires fonciers y sont favorables. Ou est-ce que, au contraire, on fait en sorte que le prix du blé baisse et ça suppose, d'une certaine façon, puisqu'il est produit meilleur marché à l'étranger, que on accepte des importations. Les propriétaires fonciers dominent le Parlement anglais dans les conditions de l'époque et ils arrivent à faire passer donc cette loi sur le blé en 1815 qui introduit un prix à partir duquel on pourra importer du blé. 80 shillings par quarter de blé, mais en dessous de ce prix, l'importation de blé sera proscrite. Donc, d'une certaine façon, ça veut dire que ça garantit que le prix du blé restera élevé en Grande-Bretagne.
Et ça n'arrange pas les manufacturiers qui sont contraints d'augmenter les salaires, puisque le prix du blé augmente.
Donc il y a un gros débat. Ce qui est intéressant, c'est que ce débat, il sort des limites du Parlement, il va dans l'opinion publique, et il met aux prises deux économistes qui sont les deux meilleurs économistes de l'époque, c'est-à-dire Thomas Robert Malthus, qui avait déjà publié, donc j'ai dit tout à l'heure, l'essai sur le principe de population, et puis Ricardo. Et ils ont des positions opposées. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les raisons pour lesquelles ils sont opposés. Et l'extrait que vous avez cité montre qu'il y a en réalité deux niveaux. Il y a un niveau politique, d'ailleurs c'est le terme qu'utilise Ricardo dans son extrait, il y a un niveau politique qui est, est-ce qu'il est souhaitable, c'est ce que pense Ricardo, ou est-ce qu'il n'est pas souhaitable, est-ce qu'il est dangereux de subordonner l'alimentation des Anglais au bon vouloir des producteurs étrangers. Et évidemment, il y a cet exemple récent du blocus continental qui rend la question d'autant plus sensible. Alors, là-dessus, Malthus et Ricardo s'opposent. Malthus pour des raisons qui sont des raisons stratégique ou politique, on risque un jour d'avoir des importations de blé interrompues du bon vouloir des exportateurs étrangers, soit pour des raisons politiques, l'hostilité, genre Napoléon, soit parce qu'il y aura une pénurie à l'étranger et que les pays préféreront garder le blé pour eux plutôt que de nous le vendre. Donc, non. Ricardo dit non. Même si on se place sur ce plan-là, si la Grande-Bretagne constitue un débouché important et régulier pour la production de blé étrangère, il sera très difficile à un pays producteur étranger de restreindre ses exportations. Il aura des troubles sociaux. Ricardo dit c'est une des raisons pour lesquelles Napoléon a échoué en Russie. La résistance du peuple russe comme conséquence du blocus continental. Quant à l'argument de la pénurie, justement, s'il y a ce marché important en Grande-Bretagne, ça permettra d'étendre et de diversifier les surfaces cultivées à l'étranger, de telle sorte que les risques de pénurie diminueront. Mais c'est indécidable. La seule chose qu'on peut dire, ce sont des arguments très modernes aujourd'hui, hein, on pourrait les reprendre dans tel ou tel... Bon. Mais c'est indécidable. Bon. Ce qui est plus important, c'est quand on passe au niveau économique.
C'est ça. C'est en quoi, pour Ricardo, ces lois donc sur le blé ne sont pas favorables à l'accumulation du capital, à la croissance, on pourrait dire aujourd'hui.
Alors, voilà. Donc, et c'est une illustration, une de plus, de ce que je disais tout à l'heure, la question du protectionnisme versus le libre-échange, c'est une question pratique qui dépend de quelque chose de plus important, qui est la vision de l'enrichissement national. Alors, bon, Ricardo le dit bien, une hausse du prix du blé va entraîner une hausse des salaires monétaires, parce que si les salaires s'ajustent pas, la reproduction des travailleurs et de leurs familles est compromise, et une baisse des profits. Voilà, ça c'est la théorie de la répartition de Ricardo, et c'est le cœur de son allié.
Et donc une baisse des investissements.
Et voilà. Supposons qu'il n'y ait pas d'importation. Ce que veulent précisément ceux qui défendent les lois sur le blé. La croissance de la population va entraîner nécessairement une augmentation de la production de blé. Si on ne peut compter que sur la production domestique, il faudra mettre en culture des terres de moins en moins fertiles, assécher des marécages, supprimer des forêts pour les transformer en surface cultivable, ou il faudra accroître le capital utilisé sur les terres qui sont déjà en culture. Dans tous les cas, ça veut dire que la quantité de travail nécessaire à la production d'un quarter de blé augmentera, son prix augmentera, les salaires monétaires augmenteront, les profits baisseront, donc l'investissement s'arrêtera, on ira vers un état stationnaire. Autrement dit, il est de l'intérêt général, sauf évidemment celui des propriétaires fonciers, ça c'est vrai, mais de l'intérêt de toutes les autres classes de la société.
C'est-à-dire les travailleurs salariés, les entrepreneurs capitalistes.
Les manufacturiers, on puisse avoir le blé au meilleur marché possible. Et si on peut l'avoir meilleur marché à l'étranger, eh bien, il faut l'importer.
Et ces arguments de David Ricardo vont faire mouche, hein, puisqu'évidemment, le libre-échange s'impose en Angleterre à partir de la moitié du milieu du 19e siècle. Mais même si le libre-échange s'impose, et vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure, Jacques Sapir, il y a de nouveaux arguments en faveur du protectionnisme qui apparaissent à cette époque, notamment sous la plume de Friedrich List, économiste allemand, qui est né en 1789, mort en 1846. Et lui, il est l'un des premiers, justement, penseurs de ce qu'on pourrait appeler le protectionnisme moderne.
Oui, alors, il n'est pas le premier parce qu'il y a toute une, tout un niveau de Français qui ont beaucoup écrit là-dessus, et List, qui était parfaitement bilingue, hein, même il était très bilingue puisqu'il parlait très bien anglais, il va effectivement s'inspirer d'eux. Bon, vous avez Chaptal, hein, le chimiste, la fameuse chaptalisation des vins. Là, il y a vraiment cette idée que le protectionnisme est nécessaire pour permettre le développement d'industries naissantes. Alors, List part aux États-Unis vers 1825. Il va écrire en 1827, à la demande de Charles Ingersoll, les Outlines of Political Economy. Et donc là, il va commencer à expliquer toute une série de ses idées. Et surtout, ce qui est très important, il va réintroduire une autre dimension politique, c'est la lutte contre l'esclavage. Parce que qu'est-ce qu'il constate aux États-Unis ? Il constate que des grands propriétaires terriens, utilisant une main-d'œuvre servile, donc à très bon marché, sont capables de produire des biens, alors le coton, l'indigo, etc., qu'ils vendent à la Grande-Bretagne, et en échange, eh bien, évidemment, ils veulent pouvoir acheter des produits manufacturés en provenance de Grande-Bretagne. Et là, si vous voulez, il y a un point qui devient extrêmement important.
Lui, l'esclavage crée de la concurrence déloyale, tout simplement.
Il crée de l'esclavage, oui, et puis surtout, si vous voulez, alors, je pense que il est très profondément choqué, hein, si vous voulez, List, et là encore, c'est un libéral politiquement. Hein. Donc, pour lui, l'esclavage est une horreur absolue. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il va faire fortune aux États-Unis, il va repartir en Europe, eh bien, il va croiser un autre économiste américain qui, lui, au départ, est très convaincu par les thèses de Ricardo, c'est Henri Carré, et qui va se détacher de ses thèses pour venir sur les positions de List en 1847.
Au point d'influencer Lincoln et la politique protectionniste des États-Unis.
Absolument, et bien au-delà des États-Unis. bien au-delà des États-Unis, parce que les noms de Liszt et de Carré ont un rôle extrêmement important. Alors, en Allemagne, évidemment, Liszt, c'est d'une certaine manière la personne qui va penser l'union douanière, le Zollverein, en Russie. Et puis Carré va beaucoup influencer des économistes japonais, bon, qui aussi connaissent Liszt, des économistes chinois. Et donc, on voit bien que à travers cette espèce de, si vous voulez, de choses qui se mettent en place aux États-Unis, eh bien, il y a une école du protectionnisme qui se développe, et ce qui est une école qui, ne s'intéresse plus à la question de savoir est-ce qu'il faut maximiser la balance commerciale. Non, il faut plutôt maximiser le développement d'un certain nombre de branches industrielles, etc.
Et cela dans la perspective d'un bien-être collectif, puisque c'est aussi une question qui se développe de plus en plus, cette fois au XXe siècle. Guilain de Leplace, on est au moment de l'émergence des États-providence. Cette question du bien-être collectif va être reliée à celle du protectionnisme ?
Alors, c'est difficile à dire, parce que ce qui va beaucoup marquer les interrogations sur le protectionnisme, c'est ce qui se passe dans les années 30. C'est-à-dire l'effondrement du monde ancien, l'effondrement d'une croyance en une richesse apportée par le système capitaliste, l'effondrement de l'étalon or à partir de 1931, cette espèce d'éclatement des relations économiques internationales avec la montée des nationalismes en Italie, en Allemagne. Et donc, tout ça surdétermine beaucoup les débats. Et en particulier, on en voit un exemple dans son ouvrage, Jacques Sapir l'évoque, c'est la position de Keynes. Mmh. Jacques Sapir parle de conversion de Keynes du libre-échange au protectionnisme. C'est peut-être aller un petit peu loin en besogne. Bon, il se trouve que effectivement Keynes publie en 1933 un article dans une revue américaine, mais il publie aussi dans sa propre revue en Angleterre, et donc il s'adresse à l'opinion publique britannique. Et le titre de cet article est très intéressant, puisque c'est l'autosuffisance nationale. Voilà, donc voilà, on pourrait dire il se convertit à ça. Or, en réalité, si on regarde un petit peu ce que dit Keynes, c'est il faut faire attention. Il y a des conditions dans lesquelles, à l'évidence, le libre-échange s'impose. J'évoquais tout à l'heure le vin en Angleterre. Mais d'un autre côté, c'est vrai.
Il faut peut-être une dose de protectionnisme.
Voilà, c'est vrai que, en gros, ça dépend de la société qu'on veut. Et la position de Keynes consiste à dire, d'un point de vue économique, le libre-échange a des arguments, pas des arguments théoriques, des arguments pratiques. Il insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas de théorie. Bon, mais d'un point de vue sociétal, on dirait aujourd'hui, si on veut une certaine harmonie de la société, une certaine diversification des secteurs, mais aussi des catégories sociales, des types de métiers et tout.
On peut éventuellement penser à ce retour du protectionnisme.
À nouveau, c'est une question pratique.
Mais
c'est pas une question idéologique.
Et c'est une question extrêmement intéressante, puisqu'on voit aujourd'hui, on assiste à un retour de ces questions protectionnistes et qui pose la question, effectivement, du bien-être collectif, de la société que l'on désire. On arrive malheureusement à la fin de cette discussion. Il y aurait encore eu beaucoup de choses à dire, mais je vous remercie beaucoup à tous les deux. Je vous remercie Guilain de Leplace et Jacques Sapir de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On mettra les références de vos ouvrages sur la page de notre émission pour les auditeurs. Un grand, grand merci à tous les deux. Tout de suite, on va retrouver le pourquoi du comment, la chronique de Dominique Méda, que aujourd'hui on diffuse exceptionnellement le lundi au lieu du vendredi.
Comment anticiper les reconversions de la transition écologique ? Si la plupart des études indiquent que la transition écologique devrait conduire à un surcroît de création d'emplois, celles-ci sont la résultante d'un processus de destruction et de création d'emplois. Il faudra donc être capable d'anticiper les reconversions nécessaires. La France a dû faire face à de nombreuses reprises à des restructurations de son économie. Sans remonter à la révolution industrielle, il n'est que de songer à la crise de la sidérurgie ou du textile dans les années 70 et 80 qui ont malheureusement entraîné la mise au chômage ou en pré-retraite de nombreuses personnes. Notre pays n'a pas vraiment été capable d'organiser l'anticipation de ces mouvements de main-d'œuvre et les reconversions nécessaires. Plus récemment, au début des années 2000, un fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés avait été mis en place pour aider les travailleurs salariés et indépendants confrontés à une restructuration à retrouver un emploi. Il n'a malheureusement concerné que quelques grands groupes ayant engagé des plans sociaux de masse. Il s'agit donc désormais d'anticiper la réduction d'effectifs et la transformation des méthodes de production des nombreuses entreprises confrontées à l'obligation de diminuer drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre et d'éviter que le poids de ces ajustements ne repose exclusivement sur les salariés et travailleurs des entreprises et des secteurs concernés. C'est la raison pour laquelle, depuis 2009, syndicats et associations soutiennent l'idée d'une transition juste. C'est la Confédération syndicale internationale qui a développé et proposé ce concept à l'ONU en défendant l'idée que la question sociale devait faire partie intégrante du déploiement d'une économie verte et qu'il était notamment indispensable de consulter tous les acteurs concernés et de former les travailleuses et travailleurs aux nouvelles compétences requises par la transition vers une économie zéro carbone. En 2015, l'Organisation internationale du travail publiait ses « Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous ». Mais la mise en œuvre de tels principes est tout sauf simple. Il faut d'abord identifier les entreprises concernées, puis cartographier les compétences des salariés. Il faut ensuite savoir quels emplois vont être développés, dans quel lieu et dans quelle quantité, puis organiser l'apprentissage des compétences nouvelles nécessaires à l'exercice d'un métier existant ou nouveau pour les salariés concernés. Cela nécessite une ingénierie très précise, la coordination de différents acteurs au niveau des territoires concernés, une collaboration étroite entre les entreprises, les salariés, les instituts de formation et les branches. Il existe aujourd'hui de nombreux plans à l'échelle territoriale qui peuvent aider à cette transformation, par exemple les schémas régionaux climat-air-énergie et les plans climat-énergie territoriaux. Par ailleurs, pour l'instant, les institutions censées aider à la gestion de ces transitions restent les agences de Pôle emploi. Si les reconversions ne sont pas suffisamment anticipées, les travailleuses et travailleurs concernés seront en effet pris en charge par Pôle emploi. C'est pour éviter ce qui constitue une perspective susceptible de rendre la transition écologique peu désirable qu'un collectif composé d'associations et de syndicats avait proposé au Royaume-Uni dans la première décennie des années 2000 la démarche intitulée « 1 million climate jobs ». Elle consistait à mettre en place des institutions accueillant les salariés des entreprises menacées, opérant un diagnostic de leurs compétences, les formant, puis les remettant immédiatement au travail dans un service public du climat, dans des activités telles que la rénovation thermique, les transports en commun ou les énergies renouvelables. Nous verrons lors de la prochaine chronique que les innovations sociales de cette sorte sont encore très insuffisantes.
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. On se quitte avec Top Step Avitou, un single sorti il y a quelques jours, issu de la collaboration entre la chanteuse londonienne Green Timpeng et le DJ Nightmares on Wax. Demain, comment la France a-t-elle oscillé entre protectionnisme et libre-échange depuis la Révolution française jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale? Nous en parlerons avec l'historien Francis Démier, qui a publié il y a quelques mois cet ouvrage, La Nation, frontière du libéralisme, libre-échange et protectionniste français aux éditions du CNRS. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.